Allons se parler des communications avec notre chroniqueuse du lundi, Marie-Ève Doyon, chroniqueuse au Journal de Québec et Journal de Montréal et également fondatrice de Média Relations Publiques. Marie-Ève, comment vas-tu, mon ami? Est-ce que Marie-Ève est là?
Je suis avec vous.
Elle est là. Bonjour, comment ça va, Marie-Ève?
Ça va bien, il fait soleil à l'endroit où je suis, donc il y a de l'espoir.
Oui, il y a de l'espoir. Bien, aujourd'hui, l'espoir était un petit peu plus dur à trouver, je te dirais. Bon, si on regarde officiellement, M. Dubé a confirmé que c'était une troisième vague. La semaine dernière, on disait « on résiste », mais là, aujourd'hui, là, on peut se le dire, c'est un début de troisième vague, là.
Début de troisième vague, et ce qui surprend, c'est un peu la vitesse à laquelle ça s'envole. Justement, comme tu le disais, la semaine dernière, on disait on résiste, mais il n'a fallu que 2 jours avant que le gouvernement change son fusil d'épaule. Déjà aujourd'hui, on voit des cas de variants dans la région de Québec, de nombreux cas qui laissent présager que la courbe va prendre une pente ascendante très important.
On le savait que le variant, surtout britannique, allait être la majorité des cas dans quelques semaines. On semble que ça s'accélère. Est-ce que tu crois qu'au gouvernement, on s'est fait prendre de court un peu?
Je ne sais pas si on s'est fait prendre de court, mais au gouvernement, on souhaitait déconfiner, redonner de l'air aux Québécois. Puis, ça arrive au même moment où le variant augmente. Très mauvais moment, évidemment, parce que c'est aussi le retour des beaux jours et l'arrivée de la vaccination massive. Donc, tous ces facteurs donnent envie aux gens de prendre un peu plus de liberté. Et si le variant arrive au même moment, ben là, évidemment, on va avoir une tempête parfaite.
Est-ce que les mesures, bon, on sait, là, la semaine dernière, il y a eu des mesures qui ont été dans les dernières semaines de déconfinement. Comme tu le dis, les Québécois se font à l'idée que le printemps, ça va être un beau printemps ou du moins un bel été avec le retour du beau temps qui s'en vient. Monsieur Legault a décidé quand même de continuer les mesures qu'ils avaient annoncées la semaine dernière, alors qu'il aurait pu reculer peut-être vendredi, là, concernant au moins les 3e, 4e et 5e secondaire à temps plein, là.
Bien, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que tout cela sera sous observation et que le gouvernement se réserve le droit de reculer. Mais on a déjà rappelé tous les enfants dans les jeunes dans les classes. C'est très difficile de jouer sur un pied, puis sur l'autre, puis sur un pied. Ça fait partie des difficultés avec lesquelles le gouvernement compose. Celui d'avoir un pied, ce que moi j'appelle avoir un pied sur le gaz puis un pied sur le break, c'est une façon difficile de gouverner. C'est la raison pour laquelle, entre autres, on est resté dans ce qu'on appelait la fameuse zone rouge plus longtemps que ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais là, c'est difficile de revenir sur les traces avec le variant qui augmente. Est-ce que le premier ministre aurait dû tout de suite vendredi dire « donnons-nous 2 semaines, donnons-nous 3 semaines pour voir comment ça se développe » Je pense que le nombre de cas de variants qu'il y avait ou l'augmentation des cas, là, on est passé au-dessus de la barre du 1000 samedi, cette augmentation-là n'était pas suffisante pour donner la légitimité au premier ministre de faire perdurer des mesures qui, malgré tout, restreignent des libertés individuelles au nom de la protection du grand public.
On le sait, au Québec, on a quand même l'endroit en Amérique du Nord où on a eu le plus de mesures coercitives. On a été le seul endroit à avoir un couvre-feu, mis à part un peu Miami, là, il y a quelques semaines. Quand on regarde la courbe avec ces variants-là, si on regarde dans les autres provinces canadiennes, comme les provinces de l'Ouest, on semble tous avoir la même courbe, alors que là-bas, il n'y a pas autant de mesures. Je veux dire, les restaurants ont toujours été ouverts. Les zones rouges, zones oranges, il n'y a pas eu autant de mesures que nous. Donc, ça donne du jus un peu à ce que le premier ministre ne referme pas tous les restaurants, les gyms et toutes les mesures qu'on avait avant, dont le couvre-feu, là.
Ben oui, ce couvre-feu qui est toujours en effet, alors qu'il n'y en a eu, comme tu le mentionnais, qu'ici et quelques jours là, pendant le spring break aux États-Unis. Couvre-feu qui a eu l'air de faire diminuer les cas de manière importante. On se demande de plus en plus si c'est pas de la saisonnalité du virus qui fait que les courbes bougent sensiblement de la même manière un peu partout sur le territoire. Est-ce que les Québécois sont plus indisciplinés que les Canadiens des autres provinces? Ça, on le sait pas. On demeure la province où il y a eu le plus lourd fardeau de décès dans toute la fédération. Le plus grand nombre de décès dans la fédération est au Québec, mais on nous dit que c'était à cause des résidences de personnes âgées, que cette situation-là devrait être sous contrôle maintenant qu'il y a eu de la vaccination massive. Elles sont très nombreuses, très peu nombreuses les personnes qui ont eu deux vaccins. Les mesures de distanciation et de protection n'ont pas nécessairement beaucoup changé. Il y a des nouveaux préposés aux bénéficiaires qui ont été formés en vitesse par le gouvernement et d'autres sont attendus. Mais c'est certain que la loupe sera insistante sur ces différents secteurs du domaine de la santé. Si jamais il devait y avoir une autre courbe de décès dans les résidences de personnes âgées, là, c'est certain que les Québécois ne pardonneraient pas au gouvernement de ne pas s'être amélioré.
À date, ça va bien. Je veux dire, même ici en Beauce, ça fait un mois qu'on a eu, le 27, ça fait un mois qu'on a eu aucun décès relié à la COVID-19. Donc, le gouvernement doit aussi regarder les décès parce qu'à un moment donné, ce virus-là, il va s'estomper, il va devenir soit comme une grippe ou va complètement disparaître. Donc, au gouvernement, on doit se pencher sur les hospitalisations et c'est ce que la population s'attend, j'imagine.
Oui, mais en même temps, en Beauce, tu le mentionnes toi-même, il y a peu de décès, mais il y a eu un appel à la discipline qui a été fait dans les médias dans les derniers jours parce que il y a beaucoup de Beaucerons qui sont plus rébarbatifs. Qu'est-ce qui fait que les Beaucerons ont tendance à vouloir s'émanciper davantage? Est-ce que c'est la fameuse indépendance d'esprit Beauceronne qui fait qu'on vote différemment des autres, qui fait qu'on consomme aussi différemment des autres, qui fait qu'on est plus, tu sais, quand on regarde les Québécois qui sont un peu plus souverainistes, les Beaucerons le sont un peu moins. Est-ce que c'est la proximité avec la frontière qui a mis ça dans notre fibre? Mais là, les Beaucerons sont plus à risque étant donné qu'ils respectent moins les règles de base, qui ne soient pas nécessairement le couvre-feu, mais au moins le lavage des mains, le port du masque et la distanciation.
AstraZeneca, évidemment, dans les dernières semaines, on a fait une grande campagne pour redorer l'image d'AstraZeneca, pour dire à tout le monde que c'est un bon vaccin, il est efficace à 100% pour ce qui est des complications sévères dues à la COVID-19. Monsieur Dubé s'est fait vacciner en grande pompe, on en a fait un show médiatique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui nous dit qu'il n'est pas recommandé aux 55 ans et plus. Comment on réussit à s'en sortir pour permettre à ce vaccin-là qu'il est sécuritaire ou pas?
Ben, toutes les instances internationales le disent sécuritaire. Là, on agit de prudence parce qu'on sait que les incidents principalement de thrombose ont eu lieu chez des personnes plus jeunes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même l'utiliser pour vacciner les personnes plus âgées, mais il est un petit peu moins efficace pour les personnes aînées. On continue de nous dire que c'est 100% mieux d'être vacciné que de contracter la COVID, malgré les risques qui pourraient être liés à un vaccin. Je suis pas non plus une spécialiste de la question, mais je serais intéressée aussi de voir les cas de thrombose. Qui étaient-ils? Est-ce que c'était des femmes qui prenaient des anovulants? Est-ce que c'était des hommes qui avaient de l'hypertension? Quelles étaient leurs strates d'âge et tout? Des facteurs concomitants qui peuvent être des facteurs qui favorisent les thromboses. Mais comme je ne suis pas médecin et que je n'ai pas ces données-là, je ne peux pas m'avancer. Je pense que c'est une question de prudence élémentaire que d'exiger que ce soit réservé à des populations qui sont moins touchées par les effets adverses. Je pense aussi que toute la stratégie de vaccination canadienne, américaine et québécoise surtout, table sur l'affluence de ces vaccins-là qui vont nous permettre de vacciner massivement. Si on retire tous les AstraZeneca du marché, bien évidemment qu'on devra repousser la promesse du 24 juin, ce que personne ne veut faire à ce moment-ci.
Changement de sujet, on va se parler de la lutte, évidemment, contre la violence faite aux femmes. Monsieur Legault, bon, le budget la semaine dernière de Monsieur Girard, surtout dans les groupes d'intervention, on s'attendait à avoir vraiment beaucoup plus d'argent pour cela, surtout qu'on a eu 7 féminicides en 7 semaines. Et là, en fin de semaine, on essaye soit de rattraper la balle un peu en nommant Geneviève Guilbeault responsable en même temps. Qu'est-ce que ça nous dit comme message?
En effet, on veut donner un signal clair que la violence faite aux femmes, ce n'est pas acceptable et qu'il faudra y avoir un changement de ton au Québec. Le message que nous envoie Mme Guilbeault aujourd'hui et celui que le premier ministre a envoyé, c'est un message qui résonne un peu mal quand on fait un peu du paternalisme en disant « Hey les gars, ça se peut plus, on peut pas faire ça » ou encore quand Mme Guilbeault nous dit « Ben ce sera un message de société » crier, on va se serrer les coudes pour que ce soit plus acceptable. C'est un peu aussi rejeter le blâme sur les voisins qui n'ont pas dénoncé quand ils entendaient des coups chez leurs voisines. Je trouve ça un peu maladroit de la part du gouvernement. En point de presse la semaine dernière, quand on a reproché au gouvernement le manque de financement des places dans les maisons, je n'ai pas entendu le point de presse, mais on m'a rapporté les propos disant « Ben oui, mais mesdames peuvent toujours aller chez des amis chercher refuge », comme si c'était à des amis de s'exposer aux violences d'un mari ou d'un conjoint qui pourrait débarquer à tout moment dans une famille qui serait une famille d'accueil bienveillante. Là. Mm-hmm. Ce dont on a besoin, ce sont des ressources professionnelles, des ressources qui coûtent cher, et le gouvernement a raté le bateau en ne donnant pas d'argent à ces ressources, plus qu'à hauteur de 22,5 millions sur 5 ans, c'est-à-dire même pas le salaire d'un joueur de la Ligue nationale de hockey.
Isabelle Charest, bien sûr, la ministre responsable de la condition féminine. Là, on amène Mme Guilbeault. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu... Son travail, ça n'a pas fonctionné, ou on veut juste donner un envoi fort parce qu'on a justement raté la semaine dernière?
Ben, le premier ministre faisait une publication en disant que la place des femmes est importante, surtout en politique, puis c'est important d'avoir des femmes fortes, puis de protéger nos femmes. Mais il y a juste une femme forte dans le gouvernement de François Legault, et c'est Geneviève Guilbeault. Mm-hmm. Geneviève Guilbeault qui est en isolement préventif en ce moment parce que son conjoint a été exposé à une personne qui a contracté la COVID. Mais on le dit souvent, c'est un gouvernement qui manque de profondeur. C'est ce qu'on dirait si c'était une équipe de hockey. C'est toujours les mêmes joueurs, hein? Christian Dubé, Geneviève Guilbeault, Éric Girard, des fois Pierre Fitzgibbon, mais là, comme c'est là, tout le monde y cherche des poux, alors il n'y a que le premier ministre qui va au bat. Sinon, c'est difficile pour le premier ministre de se dire féministe et de dire qu'il veut un gouvernement égalitaire quand il confie les fonctions les plus importantes uniquement à deux ou trois ministres femmes, parce que je ne veux pas exclure Sonia Lebel non plus de ça. Gouvernement qui a été aussi beaucoup plus sévère envers les femmes qui ont fait des erreurs, on pense à Marie-Chantal Chassé, on pense à Mme McCann, qu'il ne l'a été envers des hommes qui ont fait des bêtises de leur côté. Donc, gouvernement qui essaie de se donner une couleur un peu rose, mais qui fait très mal la chose, selon moi.
Mais là, on envoie Mme Guilbeault au bat, si tu me permets l'expression, mais si elle ne réussit pas à soit mettre... Parce que là, on lui donne plus de moyens. Là. On a sous-entendu plus d'argent, évidemment. Si dans 6 mois, 1 an, les conditions n'ont pas changé et que les organismes continuent de croire que le gouvernement n'a pas assez fait, bien, ça vient diminuer un peu de Mme Guilbeault. Là.
Bon, ce que ça va surtout diminuer, c'est les attentes qui ne sont déjà pas très élevées. Je peux te le dire tout de suite, dans 1 an, on va parler de la même chose. On va avoir le même discours. On va continuer à dire que Madame n'avait pas les moyens de réaliser ses ambitions. Si c'est à elle qu'on confie ce dossier-là, c'est aussi parce que c'est elle qui est responsable de la sécurité publique, donc de la capacité d'intervention des policiers. La semaine dernière, c'était navrant d'entendre des policiers dire « Ben Madame, si vous n'avez pas de preuves de ce que vous alléguez, si vous n'avez pas été frappé pour vrai, si vous avez vécu de la violence psychologique, on ne peut rien faire pour vous. » Quitter le domicile familial, mais les policiers n'ont pas les moyens d'intervenir dans des cas comme celui-là, autrement que de venir faire une visite, cogner, dire « Oui, est-ce que tout va bien? Oui, bonne journée. » Est-ce qu'on va donner le muscle et les dents aux policiers pour qu'ils puissent intervenir avant qu'il y ait des coups, des blessures et morts d'hommes? C'est un peu ce qui va être regardé, mais moi j'ai 100% de certitude que ça n'arrivera pas. On ne va pas réécrire le code criminel pour donner plus de droits aux policiers d'intervenir quand c'est des allégations. On va laisser messieurs reprendre leur liberté le temps de l'attente d'un procès avec des 810. Ouais. Et ça va donner le même résultat que celui qu'on voit en ce moment.
On va voir qu'est-ce que Mme Guilbeault va nous apporter dans les prochaines semaines. Marie-Ève Doyon, toujours un plaisir de te parler, puis on te souhaite une agréable fin de journée.
À vous aussi.
C'était Marie-Ève Doyon, chroniqueuse au Journal de Québec et Journal de Montréal et fondatrice de Médias Relations Publiques. On s'arrête.